Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut les fous du volant, ravi de vous retrouver une nouvelle fois après le 6e Grand Prix de la saison à l'ombre du Hard Rock Stadium en Floride, à Miami. C'était le 2e week-end sprint consécutif également et on pensait se diriger vers un sans faute de Max Verstappen et puis la voiture de sécurité est passée par là pendant cette épreuve et c'est le choc, Norris s'impose et au lieu de crier au scandale, la F1 semble savourer une sorte de vent de fraîcheur. Est-ce que tu l'as senti, toi, ce petit air rafraîchissant, Stéphane ?
Oui, même Verstappen a apprécié. Alors, c'est normal, c'est son copain qui a gagné. Mais c'est encore sur une circonstance de course qui est un petit peu malheureux. Mais on a vu que Norris tenait bon devant. C'était impressionnant quand même. Il a fait un beau week-end.
Plus tôt dans la semaine, le monde de la F1 avait été soufflé par une première rafale, le départ de Adrian Newey de chez Red Bull après 17 ans de bons et loyaux services. Alors est-ce que c'est une catastrophe pour Red Bull ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? On essaiera de répondre à toutes ces questions. L'univers de la Formule 1, blasté aussi par les chiffres du montant d'un contrat qui aurait été ou qui serait sur le point d'être proposé par Mercedes à Max Verstappen. Accrochez-vous bien, 150 millions de dollars par an. Est-ce que la discipline a perdu la tête ? Est-ce que c'est justifié ? Eh bien, on en parlera entre nous et avec Maxime Dupuis, rédacteur en chef de la rédaction d'Eurosport.fr, pour remettre ces chiffres en perspective avec ce qui se fait dans le monde du sport. En général, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec la victoire de Lando Norris après 109 départs en Grand Prix. Lando Norris a donc remporté son premier succès en carrière à Miami. À 24 ans, il est dans sa 6e saison de Formule 1 et c'est au passage la 182e victoire de McLaren.
4e, non ?
Pardon ?
184e.
Ah bon ? J'en ai perdu deux en route alors.
Oui,
ok, je te fais plus confiance à toi qu'à moi. C'est la victoire d'un véritable processus de création d'un pilote, j'ai envie de dire, chez McLaren, parce que clairement, on a embauché Lando Norris, on l'a fait venir en Formule 1, il n'a connu que McLaren en F1, on l'a couvé, on l'a choyé, et il gagne à Miami. Ça vient récompenser tous les efforts qu'a fait McLaren pour Lando Norris.
Ils ont cru en lui, ils l'ont recruté en 2017, au moment où, je crois, Zak Brown n'était pas encore arrivé, mais Zak Brown a été d'accord avec ce projet, il lui a tout de suite fait confiance. Et il y a eu quelque chose d'un petit peu étrange, c'est qu'en 2018, Lando Norris fait sa saison de Formule 2. Il commence première course, première pole position, première victoire assortie d'un meilleur tour en course, et après, plus rien. Il termine deuxième du championnat, mais McLaren en a assez vu et ils le font monter en Formule 1 l'année suivante, avec quand même une réputation un petit peu de fils à papa, puisque son père a fait fortune dans les assurances et qu'il est l'une des il est dans le top 500 des fortunes en Grande-Bretagne, ce qu'il situe bien quand même. Et il a eu du mal quand même à se défaire de cette étiquette.
Et oui, on comprend bien, et on le voit bien en ce moment avec un Lance Stroll. Il s'en est totalement défait d'ailleurs de cette étiquette. On n'en parle plus. Ça n'apparaît plus désormais quand on parle de Lando Norris. Ce qui apparaît finalement, c'est que cette victoire, elle vient consacrer un parcours et un soutien de McLaren, mais qui se justifie au niveau des chiffres. Stéphane, si on attaque tout de suite dans le vif du sujet, Lando Norris, dès qu'il est arrivé, il avait comme coéquipier Carlos Sainz. Et ben d'entrée de jeu, il fait jeu égal avec l'Espagnol.
Ouais, Carlos Sainz était aussi au début de sa carrière, c'était déjà une référence. Il était passé par Toro Rosso, par Renault. Et là, on voit dans les deux années où il y a eu confrontation qu'il fait jeu égal la première année et le devance de justesse. Ensuite, dans les duels en qualification dont on vous parle régulièrement. Et puis après, il domine clairement Ricciardo et Piastri. Et cette année, ça fait 5-2 pour Norris après 6 séances de qualification. Donc là aussi, c'est net, il est le patron. C'est vrai qu'il ne s'est jamais confronté à un champion tel Verstappen ou Hamilton, mais il a pris ses marques. Et il a re-signé chez McLaren jusqu'en 2027. Et Toto Wolff a dit bah, c'est dommage parce que si je l'avais su, j'aurais regardé son contrat, je lui aurais proposé quelque chose plus tôt. Et chez Red Bull, on est sur la même longueur d'onde. On dit si Max Verstappen s'en va, il est notre choix numéro 1.
Ouais, clairement, il est sur les radars de toutes les équipes. À un moment, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans notre podcast, à un moment où, clairement, le marché des pilotes est en suspens d'une certaine manière. On a vu qu'il a historiquement toujours pris l'avantage sur ses coéquipiers en qualification, ce qui nous sert un petit peu de repère, parce qu'après, les faits de course peuvent parfois tronquer un petit peu les choses. Au niveau de la grille de départ de cette année, tu as une grille type, Stéphane, que tu nous fais régulièrement.
Voilà, c'est ça.
Un point pour celui qui fait la pole, 2 points pour celui qui est deuxième, donc en gros, c'est celui qui a le moins de points qui est le meilleur.
Voilà, c'est ça. Et si un pilote est forfait non engagé, c'est 25 points. Et au bout de 6 Grands Prix, on fait le total, on enlève le moins bon résultat, et ça donne la chose suivante, c'est dominé évidemment par Verstappen, 4 points devant Leclerc et Perez, Sainz, et puis apparaît à la 5e place Norris quand même, devant quelqu'un comme Fernando Alonso, devant l'Aston Martin, devant Piastri et puis les deux pilotes Mercedes. Donc ça veut dire que là aussi il n'est pas très loin en plus en performance pure de Perez et de Sainz.
C'est le premier
Norris,
des autres en
Norris,
fait.
C'est du lourd.
C'est le premier des autres.
Oui, tout à fait. Et ce qui est étonnant en fait chez ce garçon, c'est que il n'a pas encore atteint son plafond de verre, ça c'est une certitude, et il donne le sentiment de progresser d'année en année. C'est pas la hype qu'on avait eue avec Hamilton qui s'était confronté tout de suite à Lewis Hamilton chez McLaren.
À Fernando Alonso.
On l'avait vu chez McLaren en 2007.
Ouais.
Et donc là, on avait tout de suite compris. Mais c'est la petite araignée qui monte chez McLaren, Norris, et c'est la deuxième pépite qu'ils forment vraiment. Ils ont eu d'autres pilotes avec un petit peu moins de réussite là. Pour le coup, c'est bien parti. Il fait confiance à cette équipe.
Avec un petit statut un petit peu particulier. Il avait parlé de ses difficultés de s'adapter à la pression qu'il y a autour des pilotes de Formule 1 quand il était arrivé. Et il y a ces deux facettes chez ce pilote. C'est-à-dire, il a très vite montré ses failles. En acceptant de parler de ça, et d'ailleurs même en participant à la création d'une fondation caritative pour venir en aide aux gens qui sont en dépression. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est très virevoltant sur les réseaux sociaux. Il a 24 ans, il est tout jeune, il est quasiment...
Il a acquis d'abord sa popularité à travers ça, avant d'avoir même des résultats. C'est vrai que c'est assez sympa ce côté-là. Il a tout de suite capté l'attention des fans de ce côté-là. Et tu parlais effectivement de difficultés mentales qu'il avait eues, qu'il a admis. Et il a dit il faut s'en ouvrir, il n'y a pas de honte à ça. Et il a commencé à partager aussi ça sur les réseaux sociaux avec ses fans pendant la période du Covid qu'il a assez mal vécu. La pression du résultat, de se faire sortir du système assez vite, qu'il en avait peur. Bon, ses résultats l'ont assez vite rassuré. Et puis McLaren l'a re-signé tout de suite. Ça l'a consolidé et l'a fait, je dis, que progresser depuis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remporte sa première victoire après 15 podiums. Et c'est une sorte de record qui était peu enviable. Il égale Depailler, Alesi, Hakkinen et Irvine dans ce registre-là, mais Norris, il avait la troisième, la quatrième, la cinquième voiture du plateau jusqu'à présent, et c'était pas des coups manqués, des échecs, c'était au contraire des marques de surperformance, ses deuxièmes, ses troisièmes places systématiquement, et on savait que ça allait venir. Moi personnellement, je l'avais pas cru en début de saison quand il avait dit cette année, je peux gagner, on va gagner. Je me suis dit, il est quand même gonflé. Bon, on voit que si.
Et oui, on voit que si, parce que McLaren a continué sa progression. C'est moi ce qui, finalement, participe à mes yeux aussi au côté très très agréable de cette victoire, c'est que ça vient aussi récompenser, on le disait, le processus de formation d'un pilote et le processus, j'ai presque envie de dire, de ressuscitation d'une équipe. Il faut se souvenir que l'an passé à Miami, Miami, ça avait été le moins bon résultat de McLaren en 2023, 17e et 19e hein, pour Lando Norris et Oscar Piastri. Ils étaient nulle part, ils avaient loupé la voiture l'année dernière chez McLaren. Ils n'ont fait que la faire progresser tout au long de la saison 2023, et cette progression, elle s'est encore poursuivie, puisque là, c'est une voiture qui était encore très très largement modifiée par rapport à l'épreuve d'avant.
Oui.
Ça s'arrête plus chez McLaren, et finalement, ça rend cette victoire. Alors, avec un petit coup de pouce des circonstances, on y reviendra, vous inquiétez pas, mais finalement, c'est logique. Ça n'était qu'une question de temps, et cette victoire, elle est arrivée.
C'est quand même assez gonflé de mettre une dizaine de nouvelles pièces sur une voiture sur
comme
un week-end sprint
sur un circuit comme Miami.
Une seule heure d'essai pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis on y va, on fait comme si c'était bon. Et puis ça a marché, ils ont tout emboîté, c'est quand même assez hallucinant. Alors j'ajouterais là-dedans la contribution, je pense, de Rob Marshall, qui est arrivé aussi, le numéro 2, l'ex-numéro 2 d'Adrian Newey à la mécanique, et je pense qu'ils sont, ils sont sur le bon filon en termes de développement, et ils sont beaucoup plus agressifs que l'année dernière, où ils avaient sorti le premier paquet, je crois que c'était fin juin, à Spielberg, c'était assez tard, mais là en fait ils s'y prennent autrement, et là ils vont agresser en fait Ferrari.
Je pense qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que l'année dernière, où on avait compris dès les essais avant Bahreïn que la voiture était complètement manquée et que, en gros, l'équipe d'Andrea Stella, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de se manquer deux fois de suite. Donc, ils ont sans doute attendu un petit peu plus pour vraiment vérifier que ça allait marcher. Et une fois que les améliorations sont arrivées, ça a fonctionné très très vite. Je souriais quand tu parlais de Rob Marshall parce que, pour tout vous dire, notre petite popote, évidemment, on se parle avec Stéphane de ceux dont on veut parler, mais on garde toujours un petit peu de suspense pour se surprendre, pour casser la routine d'un vieux couple.
Oui, voilà. Où est-ce que tu as mentionné Rob Marshall?
J'ai marqué Rob Marshall. Voilà. Et
c'est une évidence, c'est vrai.
Peter Podromou
bien
aussi.
Sûr,
Rob Marshall, il est arrivé en janvier 2024. Hein. C'est pour vous dire que ça continue, ce processus
mais
de
Podromou,
renfort.
Podromou, c'est un historique de McLaren qui a fait un petit tour, qui est revenu chez McLaren.
Mais tout ça sous l'égide de Andrea Stella. C'est là que je voulais en venir. Et c'est Andrea Stella qui monte sur le podium. La première victoire de Lando Norris. J'étais persuadé que c'était Zak Brandt qui serait sur le podium. Non, on a laissé Andrea Stella accompagner le petit prince de cette équipe McLaren pour saluer le champagne avec lui.
Zak Brandt est un vrai boss. Il valorise ses employés.
Exactement. Au passage, Lando Norris, il offre la première victoire à un moteur Mercedes depuis Sao Paulo 2022. Un an et demi sans victoire d'un moteur Mercedes dans l'ère récente. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, cette course du Grand Prix de Miami, elle a été marquée par beaucoup de faits de course. Le plus resplendissant, celui le plus retentissant, le plus décisif, c'est évidemment l'intervention de la voiture de sécurité. On a lu, entendu beaucoup de choses sur cette intervention de la voiture de sécurité. Il y aurait eu une erreur de la part de la direction de course parce que la voiture est sortie entre Lando Norris, qui à ce moment-là était premier parce qu'il ne s'était pas encore arrêté au stand, et Max Verstappen qui lui avait fait son arrêt pour faire son changement de pneus. On a entendu beaucoup de bêtises. La vérité, elle est très simple. Article 55.6 du règlement sportif de la FIA relatif à la Formule 1. La voiture de sécurité rejoint la piste avec sa rampe lumineuse allumée sans prêter attention à la position du leader. La voiture de sécurité, elle entre en piste quand on estime qu'il y a besoin de la faire rentrer. Au moment où le directeur de course appuie sur le bouton, le pilote, Bernd Mailander, il appuie sur l'accélérateur, il rentre en piste. Après, on voit comment on s'arrange. Effectivement, depuis quelque temps, il y avait comme habitude de rentrer devant le leader quand les conditions le permettaient. Là, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un tel écart entre Lando Norris et Max Verstappen qu'il est rentré entre les deux. Ça a donné un arrêt gratuit à Lando Norris. C'est vrai, mais ça n'est pas une erreur à la lecture du règlement sportif.
Et
ça n'est pas une erreur de la direction de course. On estimait que c'était important. On ne prend pas position, hein, on tape régulièrement sur les décisions. Mais là, pour le coup, c'est pas une erreur. Pour autant, il y a eu des choses à dire tout au long de ce week-end.
Là, ça fait copieux, là, franchement. Il y a eu surchauffe dans la salle de décision et de visionnage des commissaires, des fédéraux. J'ai quand même vu des choses qui m'ont un petit peu choqué, hein, en sprint, Ocon qui prend une pénalité de 10 secondes parce qu'il sort négligemment, enfin, son équipe le fait sortir négligemment de son emplacement et il coupe la voie à Charles Leclerc.
Il vient percuter Charles Leclerc. Ouais, cette image, elle est assez étonnante. On a l'impression qu'il regarde ailleurs.
Il l'a expliqué après, c'est une mésentente, mais le fait est là. Et en fait, il purge sa pénalité pendant une neutralisation. Tout va bien. Voilà. Donc, c'est une pénalité...
fantôme.
Oui, exactement. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors... moi, je trouve qu'en fait, il faudrait purger les pénalités dans les vraies conditions de course.
Sous le drapeau vert.
Point. Voilà. Ou alors, si vraiment, vraiment, tu as besoin de rentrer et que tu le fais, eh bien, on te rajoute 10 secondes. On a l'évaluation à chaque fois du temps précis passé dans la pit lane sous régime de neutralisation, eh bien, qu'on prévoit aussi, dans ces cas-là, un ajout de temps, c'est-à-dire un temps à observer d'arrêt au stand supplémentaire. Et puis, tout le monde repartira à égalité. Voilà. Donc là, je me suis dit, on a encore raté quelque chose et on l'a sous le nez régulièrement, ce cas de figure.
Et puis, dans les stands, il s'en est passé une autre belle pendant la neutralisation, quand on a demandé au pilote de passer dans la voie des stands avec un Lewis Hamilton qui oublie d'actionner son limiteur et qui fait des accélérations dans la voie des stands.
Enfin, allez, là. Tout va bien. Voilà. Mais concernant ce sprint, je note aussi qu'ils se sont un petit peu loupés quand même sur l'évaluation de l'incident provoqué par Lewis Hamilton au départ. On revoit sur les images que Fernando Alonso en fait se loupe, il se décale à gauche, c'est lui qui percute Stroll, qui rebondit dans Norris, et tout de suite Norris, quand il revient, on pense qu'il a déjà vu les images, il dit c'est Hamilton. Hein, il est arrivé, et Alonso a dit il est arrivé comme une balle. Et en fait, si tu regardes bien, Gilles, la caméra embarquée, Alonso, c'est hallucinant.
Il
regarde devant,
arriver.
Il regarde derrière.
Il voit arriver Hamilton.
Il check le rétroviseur gauche. Il dit, c'est bon, j'ai personne dans mon environnement qui peut me créer un problème. Et là, il voit tout de suite. Et son regard reste posé assez longtemps.
Oui, c'est vrai.
Alors que cette phase est cruciale. Et il voit Hamilton en perdition arriver sur sa droite. Il essaie de lui faire le plus
de place possible.
Donc, il se décale. Et il réagit un petit peu trop tard. Il rentre dans Stroll. Et c'est de là que ça devient le problème. Et les commissaires ont dit, ben non, en fait, affaire classée. Alors que c'est Lewis Hamilton, quand même, qui s'est un petit peu oublié sur ce coup-là. Et son explication, d'ailleurs, faisait bien comprendre qu'il se sentait coupable. Bon, donc on est passé là-dessus. Et puis après, ben alors là...
Festival Magnussen.
Le cirque Magnussen, je ne sais pas comment est-ce que... C'est la stratégie du cynisme, au moins assumée, clairement. Hein.
Alors... C'est un peu compliqué parce que je vais te dire mon avis. Après, tu nous donneras les chiffres, mais ils sont fous. J'ai un peu le sentiment que Magnussen, débordé maintenant clairement par Nico Hülkenberg, est un peu devenu l'homme de main de chez Haas. Et que, alors déjà qu'il n'était pas tendre avant, ça devient vraiment très très rude comme dans tout, dans la défense, dans l'attaque, dans le comportement. Ça devient vraiment compliqué.
Il a accumulé 105 secondes de pénalité en temps depuis le début de la saison, quand même, dont 65 sur ce Grand Prix, si j'ai bien compté. Hein. Voilà. Et ça avait commencé un petit peu au Grand Prix d'Arabie Saoudite, où il avait fait deux obstructions, des sorties de piste compétitives pour rester devant un concurrent, de sorte de ménager un écart suffisant à Nico Hülkenberg, son coéquipier qui était devant lui, pour lui permettre de rentrer et de lui offrir la possibilité de ressortir en piste devant. Et de marquer donc un point.
C'est pour ça que je dis.
L'équipe l'avait chaudement remercié. Hülkenberg avait dit ce point, c'est aussi celui de Magnussen, parce que sans ça, je n'aurais pas marqué. Bon,
ça me rappelle un petit peu le comportement qu'avait Eddie Irvine à l'époque où il était coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari, où en gros, on demandait parfois à Eddie Irvine d'aller faire un peu les choses un peu borderline.
Le chien de garde, quoi. Voilà. C'est tout, hein, voilà, le sale boulot. On va dire les choses comme elles sont, parce que franchement, c'est pas propre dans cette histoire. Et là, il recommence parce que, effectivement, il a envie de se sentir utile vis-à-vis de l'équipe. Donc, il a recommencé. Donc, des sorties de piste à répétition, drapeau noir et blanc, en voulant dire là maintenant, c'est conduite antisportive quand même. Une flopée de pénalités. Et c'est vrai que ça grogne chez la concurrence, mais ça grogne aussi chez Haas, une écurie américaine. On est sur le territoire américain, c'est le Grand Prix de Miami. Et ça fait quand même mauvais genre de se laisser aller à ce genre de comportement. Alors, il a quand même assumé. Magnussen, il a dit, bah, effectivement, j'ai utilisé ces tactiques stupides. Je n'aime pas faire ça, mais j'ai fait mon travail de coéquipier. Bon, bah, tout est résumé, mais il ne va pas falloir que ça dure. De toute façon, ça ne va pas durer, puisqu'il a une super licence à 12 points, mais il lui reste
2 points. Voilà. C'est ça.
Deux points valides. Donc, ça va vite tomber. La prochaine incartade, si c'est 2 points, c'est une suspension ferme pour un Grand Prix.
Pour un Grand Prix, oui. Donc là, clairement, il n'y a plus le droit de bouger une oreille pour Kevin Magnussen. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le côté du déroulement sportif de ce Grand Prix de Miami. Alors évidemment, dans les jours qui ont précédé cette visite en Floride, le monde de la Formule 1 a été secoué par l'annonce du départ. Je pèse bien mes mots parce que là, tout est important. Du départ de Adrian Newey de chez Red Bull. Et déjà, vous comprenez que c'est un personnage un petit peu particulier, Adrian Newey, parce qu'on vous dit qu'il quittera ses fonctions à la fin du premier trimestre 2025. En général, les postes à responsabilité, soit vous vous faites virer sur le moment, soit c'est à la fin d'une saison. Voilà. Et là, non. On sent bien qu'on veut vraiment utiliser Adrian Newey jusqu'aux dernières heures de son contrat chez Red Bull. Adrian Newey, donc le concepteur de ces Red Bull, 25 titres de champion du monde en tout. Je crois que c'est 13 pilotes et 12 constructeurs.
C'est énorme.
Une sorte de mage de la Formule 1, quelqu'un qui voit circuler l'air autour des monoplaces. Et donc cette question, première question Stéphane, est-ce que c'est le début de la fin pour l'équipe Red Bull avec celui qu'on peut considérer comme le druide de la tribu Red Bull qui partirait, ou bien est-ce que c'est simplement un passage de témoin ?
Impact zéro ou proche du zéro pour moi. Franchement, c'est Epsilon, parce que quand tu es en 2024, ça fait déjà longtemps que tu as réfléchi à 2026. Adrian Newey, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, il l'a dit lui-même, il a dessiné simplement quelques pièces de la voiture de l'actuelle Red Bull. Et c'est Pierre Vacher, le français Pierre Vacher, qui est directeur technique et qui a même fait la refonte totale du concept de la voiture cette année. Et c'est lui qui l'a fait évoluer au plan mécanique, au plan aéro. Et Adrian Newey, c'est un super conseiller qui va guider l'équipe, qui va l'aider à définir, qui va définir même lui-même les fondamentaux de la voiture du prochain règlement. Il n'a quasiment jamais loupé un grand virage réglementaire, à part en 2009 où il n'avait pas vu l'histoire du
double diffuseur. Ah, c'est Rose Brown qui l'avait trouvé,
tout à fait.
Un autre génie.
Pas Rose Brown, parce qu'il est arrivé, l'idée était déjà sur la table. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que ça va être sans effet parce que on en a déjà discuté. Newey, il a déjà tracé les grandes lignes de la voiture, même si cette année, c'est interdit de commencer à travailler sur la voiture de 2026. Voilà, ça sera simplement qu'en 2025, mais à n'en pas douter, il a déjà dit ce qu'il fallait faire sur cette voiture de 2026. Donc le cadre est posé. C'est ce qui se passait chez Ferrari au temps des belles années, Rose Brown et son compère. Le chef designer Rory Byrne, en fait, Rose Brown donnait les fondamentaux, quelle doit être la philosophie aéro, mécanique de la voiture, quelle longueur d'empattement, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait travailler les pneus, etc., etc. Et à partir de ces données de base, de ce cahier des charges, le chef designer dessinait la voiture dans un cadre déterminé. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi chez Red Bull. Et je pense que ce cadre, il est déjà défini pour 2026. Et on sait à peu près ce que sera cette voiture de 2026.
Alors, j'avoue que avant de préparer le sujet, j'étais plutôt de ton avis en me disant que tout ça, ça a été déjà anticipé chez Red Bull. Chez les proches de Adrian Newey, vraiment dans sa cellule familiale, on dit que ça fait un an que Adrian Newey sait qu'il veut faire une pause, arrêter, prendre du temps pour lui, parce qu'il a un certain âge maintenant, Adrian Newey, il a envie de profiter un petit peu d'un temps qui pourrait se libérer. Et pour autant, j'ai des messages qui reviennent chez Red Bull, dans l'exploitation, on est quand même un petit peu inquiet. Parce que, bah oui, oui, il y a ce rôle que tu dis, c'est-à-dire il donne finalement le là, et ensuite il y a des ingénieurs très très intelligents, et Pierre Vacher en fait partie, qui vont développer le concept d'Adrian Newey. Comment ça va se passer après ? Eh ben, ça fait partie des enjeux qui vont être très très intéressants à suivre sur les prochains mois. J'ai été persuadé que sachant depuis un an que Adrian Newey voulait prendre du recul, que en fait Christian Horner, bah c'est simple, hein, y a deux solutions. Quand vous avez un ingénieur de génie, il vous fait votre voiture, et surtout, il fait pas la voiture d'un adversaire. Donc moi déjà, je pense que Christian Horner, il a gagné du temps comme ça en gardant finalement Adrian Newey, en lui laissant un petit peu plus de liberté pour faire d'autres projets.
Il était sous contrat jusqu'à fin 2025, oui, pour être précis. Donc ils ont raboté son contrat de 9 mois à peu près, si c'est en premier trimestre. Mais moi, je reste persuadé que ce qui les inquiète le plus chez Red Bull, c'est le moteur, de toute évidence. Et d'ailleurs, Max Verstappen en a bien parlé. Il a dit 2025, ça va être à peu près la même chose. On reste sur les mêmes bases réglementaires et personne ne va vraiment refaire la voiture l'an prochain, juste pour un an. Et par contre, ce moteur, apparemment, il crée des inquiétudes. Christian Horner a dit qu'ils avaient à peu près 75 ans de retard en matière de moteur, de motorisation sur Ferrari. Alors, on ne va pas dire 75 ans parce que je doute que le moteur qui est dessiné en 1950 leur serve encore aujourd'hui, mais ils ont tout le retard de l'ère hybride, hein, depuis ouais, 10 ans, tout simplement. Donc, et ce n'est pas Ford qui n'a pas réellement cette culture-là qui va pouvoir les aider à injecter des idées nouvelles ou de la recherche. Tout se passe à Milton Keynes avec des gens engagés par Red Bull et qui viennent principalement quand même de chez Mercedes, en tous les cas pour les gens les plus importants. Mais après, il faut de la fiabilité et c'est le point délicat. Il manquerait de la puissance, il manquerait de la fiabilité. Bon, et c'est ce qui inquiète un petit peu Verstappen. Il a dit, par contre, 2026, c'est une vraie question.
Oui, oui, clairement.
Voilà.
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que quand Adrian Newey dit « je quitte Red Bull », est-ce que c'est pour aller dans une autre équipe ? Est-ce que c'est pour vraiment prendre un camping-car et visiter le sud de la France, comme il l'a déclaré ? J'ai une piste en image, Stéphane. Oui, alors, j'ai plusieurs pistes.
Je sens que tu t'es fait
Adrian
plaisir.
Newey. Ah oui. D'abord, la première. C'est la piste Fiat, le groupe Fiat, Ferrari,
oui,
avec le Ducato Camper Van, donc qui pourrait bien séduire Adrian Newey. Bon, vous l'avez compris, est-ce qu'il ira chez Ferrari ? Apparemment, on est prêt à faire un pont d'or. Et même Fred Vasseur aurait vu Adrian Newey, il a fait escale à Londres avant d'aller ensuite à Miami. Donc évidemment, Fred Vasseur, il a déjà décroché la signature de Lewis Hamilton. S'il met Adrian Newey dans la... Ben là, on lui fait une statue à Maranello. Enfin, c'est fou. Mais attention, parce que Toto Wolff, qui est sur le coup aussi, bah, il pourrait très bien lui proposer le Mercedes Sprinter.
Ah bah alors là, c'est l'argument décisif.
Qui est très très intéressant. mais Audi arrive. Et dans le groupe Volkswagen, on a le Grand Florida qui pourrait être intéressant aussi. Et puis Bruno Famin. Alors lui, j'ai quand même un petit peu peur parce que ça va être compliqué hein, de séduire Adrian Newey avec le trafic Space Nomad.
Il faut déjà qu'il commence par le refaire,
ouais, hein,
un coup de soufflerie là tout de suite là, yep. Et puis après on verra ce qui se passe.
Bon, plus sérieusement, évidemment, tout le monde va chercher à s'attacher les services d'Adrian Newey. Ceux qui semblent être en pôle, c'est Ferrari, Fred Vasseur.
Il aime bien les tenues coordonnées apparemment, Adrian Newey. Tu sais, il a son petit carnet rouge là. Et chez McLaren, ça n'allait pas. Chez Williams non plus. Chez Red Bull, bon. Et je pense qu'effectivement, chez Ferrari, ça serait assez raccord. Hein. Mais on en avait parlé d'ailleurs en début de saison quand on avait vu cette information d'une publication allemande ô combien sérieuse qui avait été reprise par un site néerlandais très proche du clan Verstappen. Et là, on s'était dit quand même, là, il y a quelque chose là-dessous. Et Ferrari était clairement avait ouvert des discussions avec Adrian Newey. Et juste après, de façon assez opportuniste hein, quand même, hein, Lawrence Stroll a essayé de reprendre la main pour Aston Martin. On a parlé d'une offre mirobolante. Je ne pense pas que New Way soit intéressé de faire ce qu'il a déjà fait il y a 20 ans. Voilà. Oui. C'est-à-dire, même avec une usine toute neuve, c'est pas la question, parce qu'il manque encore des gens, même s'il y a son ancien bras droit à l'aéro, Dan Fallows, qui est là-bas. Et puis, il faut des pilotes aussi solides. Ça me paraît pas non. Bien parti, cette histoire. L'hypothèse Mercedes, c'est toujours envisageable. Si la voiture ne marche pas encore cette année, il y aura peut-être un problème quand même avec James Allison, hein, qui aura été mis en échec quand même 3 ans de suite.
Ça pourrait être un beau challenge. Ça voilà. Serait de remettre Mercedes sur les rails.
Quand tu as cette carrière, tu te dis que tu as envie d'aller voir ce qui se passe chez Ferrari et de participer à cette grande histoire.
Tu veux mon sentiment ?
Allez.
Il va prendre un campeur, mais il ira pêcher. Je vois pas ce qu'il aurait à gagner. Il a de l'argent pour vivre 150 vies. Il a tout fait, il a tout démontré. J'ai le sentiment que là maintenant, il a envie de profiter. Pourquoi pas ? On le sait qu'il est passionné aussi de course nautique, de faire des bateaux. Mais sur la Formule 1, j'ai quand même le sentiment qu'il a fait le tour et que maintenant, on va aller voir ailleurs. Tu voulais nous parler peut-être aussi, pour conclure, de l'héritage qu'il laisse chez Red Bull, parce que c'est quand même un personnage. 17 ans dans une équipe quand on est staff technique, et avec, il y a eu évidemment les années du titre de Sébastien Vettel. Il y a eu aussi un moment où ça a été très très compliqué chez Red Bull. Ça venait plutôt, faut reconnaître, du côté de la motorisation, mais il est resté en place, même s'il y a un moment il avait pris déjà un petit peu de recul. 17 ans dans une même équipe en Formule 1, c'est rare.
Oui, et puis alors c'est quelqu'un de génial parce qu'il aime les pilotes, il aime surtout leur fabriquer des machines fabuleuses. On l'a déjà dit ici, au début de sa carrière en Formule 1, il testait toutes ses nouvelles voitures de Formule 1. Ça, c'est absolument hallucinant. Il a des belles voitures encore qui sortent en compétition pour se faire plaisir. Et puis, j'aime bien ce côté un petit peu arrière-garde. Christian Horner, le directeur général de Red Bull, il dit « Adrian est le seul employé de l'écurie qui ne sait pas allumer un ordinateur. »
Et ça, c'est hyper pratique pour pouvoir continuer à travailler quand normalement les usines sont fermées.
Alors, parce que c'est quelqu'un en fait qui n'a jamais lâché sa planche à dessin et qui refuse en fait de travailler sur ordinateur. Donc, il travaille d'abord sur la planche à dessin et puis après, à charge à son équipe de traduire ça en données, en data. Tout à fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez romantique là-dedans, d'être un résistant alors qu'on est à la pointe des idées et des conceptions. Et comme tu le disais très justement, c'est quelqu'un qui doit lire les flux aéro sur une voiture.
Et on voit qu'il aime ça. Quand il est sur la grille, il regarde les autres voitures avec... Je trouve même qu'il y a de la gourmandise dans son regard. J'aimerais bien être une petite souris, savoir ce qu'il se dit. Je suis sûr qu'il doit se dire « Ah ben non, mais ça peut pas marcher, les gars. Vous pouvez pas mettre ça là.
Ouais. »
Enfin, comme quelqu'un qui, tu vois, qui sent... On parle de l'oreille musicale. Je suis persuadé qu'il a une oreille ou un œil, je sais pas comment dire, mais voilà, enfin, c'est un génie, quoi.
Non, mais alors n'oublie pas une chose, c'est que c'est un créateur et il a besoin de créer. Et je pense qu'il l'a dit, il va se ressourcer en France, en visitant la France, ce qui est génial. Et après, il aura peut-être envie d'un nouveau projet. Il a dit peut-être qu'un jour, je vais me retrouver à avoir besoin d'un nouveau défi. Et là, il saura à quelle porte frapper.
Celle de Fred Vasseur. Alors... On va maintenant parler gros sous, et vraiment gros sous en Formule 1, parce que après l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison 2025, le marché des pilotes de la Formule 1 est en proie à de grandes interrogations, et ça concerne le premier d'entre eux évidemment, Max Verstappen. Toto Wolff fait du charme au triple champion du monde. D'ailleurs, il s'est un peu fait rappeler à l'ordre par Oliver Mintlaff, le directeur général de Red Bull, en lui disant de s'occuper un peu de ses problèmes, qu'il en avait déjà suffisamment. On aurait proposé, ou on va proposer, un contrat de 150 millions pour Max Verstappen pour quitter Red Bull et éventuellement aller donc du côté de chez Mercedes. Alors ce chiffre, 150 millions, on a un peu écarquillé les yeux, on s'est nettoyé les oreilles en se disant « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et on se pose la question, est-ce que c'est délirant ? Est-ce que ça fait partie des choses qui se pratiquent dans le sport ? On a le renfort, parce que quand on parle argent, il faut toujours avoir le rédacteur en chef à côté.
Dupuis Investment.
Voilà, Maxime Dupuis, qui est donc le rédacteur en chef de la rédaction du site Eurosport.fr. Bonjour Maxime, qui nous a rejoint.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est choquant, Stéphane ?
Ça n'a choqué personne dans le paddock.
Bah, en tout cas...
Il n'y a personne qui a dit ce chiffre est exorbitant, il est extravagant, il n'est pas du tout réaliste. Verstappen a dit, bon, bah oui, alors 150 millions d'euros... Non, j'en fais pas une question d'argent, bien sûr.
On s'est situé à combien il est en ce moment ?
Il tourne entre 50 et 55 millions, donc ce qui est déjà beaucoup.
C'est pas mal, ça permet de survivre.
Donc il en fait pas, il préfère gagner d'abord, ce qu'il est assuré en 2025. Et
gagner sportivement, tu veux dire ?
Tout à fait, un titre supplémentaire, ce qui lui ferait 5 titres, en fait. Et puis après, il pourrait peut-être voir plus loin. Mais... On rentre dans une autre dimension, dans une autre échelle de valeur. Lewis Hamilton toucherait 100 millions d'euros par an
chez
avec
Ferrari.
Son contrat chez Ferrari. Et là, c'est pareil, par rapport à son contrat actuel, 45 millions d'euros, ça serait x2 largement. Donc, on passe dans une autre dimension et on passe tellement dans une autre dimension que 150 millions d'euros, c'est un peu plus que le budget capé d'une écurie qui est à 144 millions d'euros cette année. Ça veut dire que d'un côté, vous avez le salaire d'un pilote et de l'autre de 1000 personnes chez Mercedes ou chez Ferrari. Ça interroge un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Est-ce que ça me choque ? Non, pas vraiment. Parce que justement, on est vraiment dans une logique du sport actuel. Regarde le Paris Saint-Germain en football. Kylian Mbappé, 80 millions par an. C'est 3 fois le budget Clermont. Donc voilà, c'est vraiment une logique de fond du sport. Que personne ne soit choqué en plus en F1, c'est normal. Parce que si on tire les salaires vers le haut, les petits salaires, entre guillemets, ils vont grimper aussi. Donc tout le monde s'y
retrouve. En théorie, est-ce que c'est toujours le cas ?
Ouais, ça va. Quelque chose me dit que ça montera. Et puis je ne suis pas choqué parce que finalement, demain, ça ferait de Verstappen, finalement, sans doute le sportif le mieux payé au monde.
Ah bah oui, oui, tout à fait. On peut sortir le chiffre des revenus actuels.
Pour situer par rapport aux autres sports.
Tout à fait, où il y a Cristiano Ronaldo figure en première position. Alors ce sont les données de Forbes pour le sport à 126 millions d'euros, suivi par Lionel Messi 121, Kylian Mbappé est sur le podium avec LeBron James 111 millions d'euros. Et les pilotes actuels de Formule 1 n'apparaîtraient même pas dans ce classement, même pas dans un top 10. Ils sont généralement beaucoup plus loin. Et là, ça ferait surgir Max Verstappen en première position directement et Lewis Hamilton dans le top 7.
Je suis plus choqué de voir Ronaldo et Messi encore à cette position-là aujourd'hui que de voir Verstappen justement prendre la première place. C'est le meilleur pilote du monde.
En activité, oui.
C'est une super élite, la F1. Oui. C'est 20 pilotes, je veux dire. Alors, c'est la crème de la crème. Donc moi, ça ne me choque pas de le voir là. Et puis, c'est vraiment... Il faut dire quelque chose. Je me suis replongé un peu dans mes souvenirs, repenser au meilleur pilote peut-être de l'histoire encore. Je ne sais pas, ça, je vous laisse définir ça. Michael Schumacher, au moment où Ferrari vient le chercher chez Benetton, il paye 60 millions de dollars sur 2 ans et ça le met dans les trois sportifs les mieux payés au monde. Donc finalement, moi j'ai l'impression que pour la F1, c'est juste un rattrapage.
Et ça correspond à une réalité économique. On parlait effectivement de Ronaldo et de Messi qui sont engagés sur des fortes sommes parce qu'ils représentent une énorme image. Je ne sais pas s'ils génèrent réellement cette économie, mais quand on parle d'un contrat de 150 millions d'euros pour Mercedes, il faut le rapporter au chiffre d'affaires du constructeur Mercedes. Et c'est le big boss de Mercedes qui va dealer ça. Le chiffre d'affaires de Mercedes, c'est 150 milliards d'euros. Donc c'est la somme payée pour avoir un garçon comme Verstappen, c'est 1000 fois moins. Bon, toute proportion gardée. Et puis, on a vu aussi que ce qu'investit Mercedes en Formule 1, ils ont expliqué qu'il faudrait payer 3,5 milliards de publicité dans les médias.
Pour avoir les mêmes retombées.
Les mêmes retombées de notoriété, d'image,
etc. D'accord là-dessus.
Bon, voilà.
Je suis d'accord là-dessus. Y a une logique à ce que finalement, il y a une sorte de rattrapage par le haut des salaires des grands pilotes de la Formule 1. On n'est pas en train de parler... Sans vouloir être désobligeant, on n'est pas en train de parler d'un George Russell pour prendre un pilote qui n'a jamais été titré.
Je vais dire Lance Stroll.
Non, ça c'est autre chose. On parle de pilotes, déjà comme tu le disais, il y en a 19 en Formule 1 en ce moment, puisqu'il y a Lance Stroll aussi. mais on parle de pilotes de Formule 1 qui sont 20 sur la planète, donc déjà il y a quand même un certain talent qu'il faut payer et qui représentent pour beaucoup des constructeurs automobiles avec des revenus générés par les constructeurs automobiles qui sont complètement fous. Donc d'un côté, ça me paraît logique. De l'autre, Je me demande quand même s'il ne va pas y avoir un mouvement de contrebalancier, parce que on a justement mis le budget cap pour ne pas dissuader les constructeurs de venir en disant non, mais halte à la folie des grandeurs, on reste calme. Bah, finalement, si vous mettez 140 millions dans l'équipe, mais que vous en mettez autant dans le pilote, c'est la négation du budget cap. Donc déjà là, je me dis attention, il y a un danger pour la Formule 1. Parce qu'il y a des constructeurs, des vrais constructeurs, qui refuseront de payer ce genre de salaire. Pourquoi ? Et là, c'est autre chose. Le patron de Mercedes, quand il va falloir qu'il décide de faire le chèque ou pas, il y a plein d'autres éléments qu'il va prendre en compte. Et il y a la notion de communication. Tu parlais des retombées. Bah, il y a la communication pure. Il va passer d'un pilote comme Lewis Hamilton, qui représentait une minorité, qui était très, très engagé sur les droits sociétaux des minorités, des choses comme ça, à un pilote qu'il va payer plus cher, lui tout seul, que toute son équipe. Je ne sais pas si en termes de message politique, à un moment, il n'y a pas quelque chose qui va un tout petit peu coincer et dire non, on ne peut pas aller jusque-là. Même si, et je garde l'élément le plus fort pour la fin, ce qui n'est pas tout à fait logique, même s'il ne faut pas oublier, et on vient de fêter le 30e anniversaire de la mort de Senna, que les pilotes de Formule 1 mettent, à chaque fois qu'ils s'installent dans leur voiture, leur vie en jeu, et que ça doit se payer. Je suis désolé, deux mecs qui se renvoient une balle jaune sur un cours de tennis, ils ne sont pas en danger de mort. Ils gagnent beaucoup de millions, mais ils ne sont pas en danger de mort. Un pilote qui prend une courbe à 350 km/h, si ça se passe mal, ça peut se terminer là. Donc ça aussi, ça se paye. Il y a les deux éléments, et je me demande un peu où on va.
Alors, là, on assiste en fait à une explosion. Tu as parlé, Maxime, des 30 millions de dollars que touchait Michael Schumacher pour son premier contrat chez Ferrari, qui était bien au-delà des 8 à 10 millions de dollars qu'il avait chez Benetton. Et c'est aussi pour ça qu'il y est allé, pour avoir la reconnaissance tout simplement de son travail. Mais on était dans une forme de continuité de ces années Ecclestone qui ne changeait pas grand-chose. Puisque Senna, en 1994, il avait un contrat de 27 millions de dollars. Et précédemment, son dernier contrat chez McLaren, c'était 1 million par course. Donc c'était 16 millions de dollars. Mais là, on fait x2, x3, quoi, ce qui est absolument ahurissant. Mais ce qui correspond en fait au travail de Liberty Media, de reconnaissance aussi médiatique du sport.
Et de vouloir faire placer la discipline,
rentrer
finalement
dans une autre dimension, tout à fait. Mais alors, je rapproche ça d'un autre chiffre qui est absolument ahurissant. Vous savez à combien tourne le champion du monde MotoGP, Pecco Bagnaia?
Oh là.
Eh ben, il est à 6 millions d'euros par an. Donc là, il y a une disproportion qui est assez inquiétante, mais c'est peut-être rassurant de voir que le promoteur de la Formule 1 a racheté aussi la MotoGP et il va peut-être aussi faire décoller cette série et la et mettre là, au niveau où elle doit être.
Oui, sauf que le marché de la moto et le marché de la voiture, voilà, à un moment on ne peut pas vivre totalement dans une bulle.
J'aime beaucoup le discours du, comme tu as dit, de un peu faire attention, mais la Formule 1 aujourd'hui, c'est le toujours plus. 24 Grands Prix, on va à Las Vegas, on va à Miami. Donc ça me fait toujours marrer un peu cette espèce de schizophrénie entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire et ce qu'on fait vraiment. Parce que Liberty Media a compris qu'ils ont mis la main sur un produit en or, qu'ils ont aidé, magnifié, parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils ont magnifié vraiment la F1, ne serait-ce que médiatiquement. Donc là, pour moi, ce n'est que la conséquence finale de ça. Et il y a un chiffre que j'aimerais bien avoir, mais qui est secret, qu'on ne voit pas bien.
Ah bah, oui.
C'est évidemment les droits TV, parce que on prend la logique. En fait, déjà, il faut, comme tu l'as dit, 3,5 milliards d'investissements, ça correspond.
En publicité, voilà.
Ce n'est pas des philanthropes sportives. Donc s'ils le font, c'est que ça passe. Ça me fait penser beaucoup au sport américain. Avec les droits TV, on prend la NBA. Les contrats ont augmenté de manière exponentielle, mais en se basant sur quoi ? C'est vraiment très rationnel, très cartésien, c'est-à-dire que les télés donnent tant, ça veut dire que cette part-là revient aux franchises. Les franchises disent on a un plus d'argent, donc on peut donner plus de salaire, ce qui fait qu'il y a 10 ans, un salaire maximum en NBA pour un joueur comme LeBron James, ça allait être 20 millions. Aujourd'hui, c'est plus de 50 millions. Et ça, en à peine 10 ans. Donc la F1, pour moi, ça prend la même direction. Et je pense, en effet, moi, c'est marrant, c'est pas une bulle qui me fait peur, au contraire du foot, où on voyait tout à l'heure Ronaldo, il a 120 millions. On peut pas croire que l'Arabie Saoudite fait du beurre sur le dos de Ronaldo, c'est de l'image. Là, on sait que Mercedes, s'il signe Verstappen à 150 millions, c'est que derrière, ça va leur rapporter un max.
Ah bah, il y aura forcément un modèle qui s'appellera la Verstappen.
Voilà.
Il faut prendre aussi des risques. Parce que Red Bull, c'est un vendeur de canettes de boissons énergisantes. Ouais. Alors, je ne connais pas leur chiffre d'affaires, il faudrait regarder. Mais sur le principe même, sur ton chiffre d'affaires, normalement, tu ne dois pas investir plus de 10% de ton chiffre d'affaires en publicité. Eh bien, Red Bull, d'entrée de jeu, ils ont investi 30%.
Donc,
ils ont été très proactifs. Ils ont cassé les logiques du marché, de ce qui est admis, et ça a bien fonctionné. Donc, c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques et qui voient qu'il y a un sport qui est en pleine explosion. Et là, Mercedes est en train de casser la tirelire.
Pour terminer, d'après vous, un Verstappen à 150 millions pour la saison 2026, parce que c'est en gros ce qui se joue, faisable ou pas ?
Ah ben complètement. On a parlé du chiffre d'affaires de Mercedes. Il faudrait simplement que, industriellement, que financièrement, cette enseigne fonctionne très très bien, parce que ça passe pas toujours quand on fait des licenciements. On rapproche ça de la destinée sociale des gens qui travaillent dans les usines par rapport à des têtes d'affiche qui gagnent des salaires absolument extravagants. Bon. Donc, mais si le contexte est sain et est favorable, si Mercedes a son plan et sait que c'est vital pour avoir Verstappen, ils iront là-dessus sans problème. Et c'est toujours pareil, quand tu achètes un bien, on pense souvent à une maison ou quelque chose. Au début, on trouve toujours que c'est cher. Et puis on se dit, en fait, il n'y avait pas d'autres possibilités. Et puis c'est ce qu'il fallait faire parce que de toute façon, les prix montent tout le temps.
Ouais, et puis il n'y a pas beaucoup de travaux à faire sur Verstappen. Non, mais très sérieusement, on parlait aussi... On prend la situation 2026. 100 millions pour Hamilton, Mercedes ne peut pas attirer Verstappen en lui disant « on va te filer 80 millions ».
Surtout s'il est d'ici là qu'un championnat.
Voilà, Verstappen, j'ai dit « bah ouais, mais Coco, l'autre, il est payé 100 millions, donc il faut mettre plus ». Donc en fait, c'est une surenchère, et je pense en effet que moi, ça me paraît tout à fait plausible. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, ça me paraît complètement plausible. Et j'ai une dernière question, est-ce que vous buvez du Red Bull ?
Non.
Moi, ça m'étonne toujours qu'il y ait autant de pognon. Alors, je vois personne qui en boit. Alors, c'est peut-être d'autres contrées où on boit du Red Bull, mais en tout cas, c'est...
C'est pas en France.
Une sacrée réussite. Hein.
Bon, voilà. Et bon, on va terminer là-dessus. Sur ce point, on verra si dans deux ans, ou moins d'ailleurs, parce que maintenant, on peut s'attacher les services d'un pilote avant la fin du contrat, si Max Verstappen signera ou pas un contrat de 150 millions avec Mercedes. On va vous donner rendez-vous quand même pour le prochain Fou du volant. Et puis nous, on va reparler salaire aussi avec notre rédacteur en chef d'ici là, qui rigole, mais il va pas rigoler longtemps. prochain rendez-vous, donc ça sera après le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui aura lieu le 19 mai.
Avec un invité spécial, vous verrez.
Ah oui, promesse, ok. Et nous, on se retrouvera dans les 24 heures qui suivent pour parler de ce Grand Prix dans les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, Stéphane et Maxime,
on coupe le contact.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.